sans forcément se poser la question de savoir si c'est vraiment vraiment nécessaire. Et puis du coup il y a une autre raison de dans ce choix de recourir le moins possible, en tout cas de façon très raisonnée, aux machines, c'est la question aussi des libertés de nous déjà en tant que jardiniers, des autres aussi, parce que du coup ça nous permet de nous fournir quasiment à 100% dans des fabriques européennes, donc chez des artisans, un petit peu aussi plus loin au Japon par exemple, mais en tout cas que chez des gens qui ont un vrai savoir-faire, un travail respecté, des droits. On n'achète pas des tondeuses du coup qui sont fabriquées par des enfants dans le tiers monde. Donc il y a cette volonté là. Et puis les outils manuels, c'est aussi des outils qui sont réparables, qu'on peut entretenir quasiment toute la vie, réparer, refaire, adapter à nous, à notre usage, détourner. Donc voilà, ça nous permet d'être vraiment libre et de laisser les autres libres aussi.
Eh bien, on est toujours sur Principe Actif et on est toujours dans notre émission Bio Radio Biodive. Et maintenant, ça va être l'espèce du mois.
Je suis la grenouille à grande bouche. Et toi, comment tu t'appelles ?
Alors, l'espèce du mois est une hirondelle.
Mais laquelle ? Parce que des hirondelles, il y en a plusieurs.
Alors, on va principalement parler de l'hirondelle de fenêtre, mais on verra aussi rapidement l'hirondelle rustique, l'hirondelle de rivage et un autre oiseau qui ressemble beaucoup, qu'on confond souvent avec les hirondelles, mais qui pourtant n'en est pas une.
Lequel ?
Ah, un peu de patience. Tu verras bien. Tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur le nom de l'hirondelle de fenêtre ?
Ah oui, mais je suis impatient de savoir quel est cet oiseau mystère. Bon, enfin, l'hirondelle de fenêtre s'appelle hirondelle de fenêtre, tout simplement parce que c'est une hirondelle. Alors, hirondelle, c'est en vieux français, c'est aronde. En latin, c'est hirundo. Donc, tout simplement, voilà, c'est la même chose, hirondelle, hirundo. Et elle fait ses nids sur les façades des maisons, souvent sous un petit rebord, un avant-toit, enfin, on le dira tout à l'heure, et donc souvent à l'angle des fenêtres. Donc, hirondelle de fenêtre, c'est l'hirondelle qui niche près des fenêtres. Et en latin, ça s'appelle Delicone urbicone. Urbicum. Donc Delicone, c'est une anagramme du mot grec ancien kélidon qui signifie hirondelle. Donc on retrouve la même chose, hirondelle. Et Urbicum signifie urbain, de la ville, en latin. Remarquons, si on a le temps, que Linné en 1758 l'avait classée dans le genre Hirundo, comme sa cousine rustique, et qu'elle a changé de genre pour adopter Delicone 100 ans plus tard. Alors en anglais, elle s'appelle Western House Martin, ce qui signifie hirondelle de maison occidentale. Alors, les Anglais, ils ont une petite particularité, ils ont deux mots pour parler d'hirondelle. Ils disent martin, c'est plutôt les petites hirondelles type hirondelle de fenêtre ou hirondelle de rivage. Et puis, ils disent aussi swallow pour l'hirondelle rustique. Voilà. Parlons de l'hirondelle rustique deux minutes. Elle s'appelle Hirunda rustica, ce qui signifie exactement en latin la même chose que hirondelle rustique en français. Et en anglais, ça s'appelle barn swallow. Barn, c'est l'étable. C'est donc une hirondelle qui niche un peu dans les étables. On verra pourquoi tout à l'heure. L'hirondelle de rivage s'appelle riparia riparia. Riparia, ça veut dire rivage en latin. Et Sand Martin, c'est, on retrouve le mot Martin comme pour l'hirondelle de rivage, de fenêtre. Et Sand, parce qu'elle creuse des terriers dans le sable. Sand, c'est le sable. Mais alors, cet oiseau mystère, c'est quoi ?
Ah, c'est le martinet noir. De son petit nom scientifique, Apus apus, et c'est pas vraiment une hirondelle.
Il a des puces ?
Non.
Et à quoi elles ressemblent les hirondelles de fenêtre ?
Alors, les hirondelles de fenêtre, elles sont assez petites. Hein, en longueur, elles font à peu près 13 cm. En envergure, entre 26 et 29 cm aussi. Donc, elles sont bicolores. Elles ont tout le dessus noir avec des reflets bleus. Elles ont le croupion blanc. Donc, le croupion, c'est la fin du dos. Et le dessous entièrement blanc. Une toute petite queue fourchue mais qui n'est pas en filet, pas de rouge gorge, de gorge rouge pardon non plus, comme l'hirondelle rustique, et elles ont des pattes recouvertes de plumes blanches.
Et je vais vous parler moi un peu de son habitat. On dit que ce sont des animaux rupestres, c'est-à-dire qu'elles nichaient à l'origine sur les parois rocheuses. Comme sa cousine rustique, elle s'est très bien adaptée aux humains, mais elle est plus citadine. Aujourd'hui, on la retrouve surtout en agglomération. Contrairement à l'hirondelle rustique qui aime bien des endroits fermés comme les étables ou comme les garages, moi j'en ai une qui vient dans mon garage, donc je suis content parce qu'il paraît que ça porte chance. Les hirondelles de fenêtre, au contraire, elles ont besoin de l'accès à l'espace aérien, c'est pour ça qu'elles sont plutôt sur les façades des maisons, mais plutôt sous un rebord de toit ou au coin d'une fenêtre. On pourrait dire que sa deuxième maison est le ciel et que c'est ce que tu vas nous expliquer, Camille, en nous parlant de sa nutrition.
Oui, parce qu'elles se nourrissent exclusivement d'insectes, donc principalement de petits insectes volants tels que les mouches ou les moustiques. Bonne nouvelle pour moi. Elles les chassent en plein vol, plutôt à grande hauteur, parfois même en compagnie des martinets. Elles sont assez sociables et grégaires, hein, c'est une caractéristique de cette espèce. Donc aussi bien pour se nourrir que pour faire les nids, donc qui sont collés les uns aux autres. Et bien sûr, en hiver, il y a un petit problème puisqu'il n'y a plus d'insectes volants. Est-ce que tu peux nous dire comment elles font du coup pour s'adapter ?
Bah effectivement, en hiver, elles n'ont plus d'insectes, donc elles sont obligées d'aller les chercher ailleurs. Et notre hirondelle est une migratrice. Elle part dès la mi-septembre en Afrique, plus loin que sa cousine rustique, du Sahara à l'Afrique du Sud. Et elle revient plus tard en Normandie, mais pas avant la mi-mars. Comme elle va plus loin, elle revient plus tard. Son nid, on va parler un peu de reproduction, son nid est fait de boue séchée en forme de sphère plus fermée que la coupe ouverte de l'hirondelle rustique et elle se situe sous un abri, donc comme on l'a dit, avant toit ou au rebord de fenêtre. La nidification se fait en colonie entre mai et septembre. Quand elles viennent, on commence déjà dès à présent à les entendre, par exemple au Beau-Sainte-Croix, on verra tout à l'heure ça avec Jean-Pierre. Et quand on a ces hirondelles qui arrivent et toutes qui se regroupent en colonie auprès de leur nid, eh bien, on les entend. Comme on l'a dit, la nidification se fait en colonie, les nids se touchent entre mai et septembre. Elles pondent 3 à 5 œufs blancs et il y a une nichée la plupart du temps par an. Exceptionnellement, il y a une deuxième nichée. Les insectes capturés sont enduits de salive et donnés en pâture aux petits sous forme de boulettes d'insectes. En période d'intempéries, quand la température chute, les jeunes peuvent sombrer dans une sorte de catalepsie et interrompre leur croissance, qui leur évite de mourir, quoi. Ils n'ont pas de nourriture, mais ils peuvent quand même survivre un certain temps. La durée du séjour au nid peut varier, elle peut varier de 3 à 5 semaines. Mais où est-ce qu'on peut la trouver, cette hirondelle ? On la trouve partout en Normandie ?
Dans beaucoup d'endroits quand même, mais pas que en Normandie, hein. Elle niche largement sur l'ensemble du territoire métropolitain quand même, y compris en Corse, et elle se reproduit aussi bien en plaine qu'en zone montagneuse. On la retrouve aussi dans toute l'Eurasie, à l'exception de terres arctiques ou subtropicales, de l'Europe occidentale à la Sibérie. En Asie, de l'Atlantique au Pacifique et jusqu'en altitude, tant qu'il y a des villes. Alors, quels sont les dangers qui peuvent menacer ces hirondelles ?
Alors, elle a un prédateur qui est un superbe oiseau, c'est le faucon hobereau qu'on peut voir quand il y a un regroupement d'hirondelles. Alors, c'est un peu triste parce qu'il y a des hirondelles qui passent, mais c'est un beau spectacle quand même. Hein. C'est un peu terrible. Mais bon, il faut quand même dire que le danger principal, c'est quand même l'absence de nourriture. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une étude pour regarder le déclin des insectes. Il y a un déclin des insectes. Or, ces oiseaux, comme on vient de le dire, sont exclusivement insectivores. Et donc, avec moins d'insectes, il y a moins de nourriture, donc il y a moins d'oiseaux. Et ça, c'est dû malheureusement au fait qu'il y a des champs cultivés, et que dans ces champs cultivés, on met quoi ? On met des insecticides. Et les insecticides, c'est fait pour quoi ? Pour tuer les insectes. Le deuxième problème qu'elles ont, c'est un manque d'endroits où elles peuvent nicher. Parce que de plus en plus, les maisons sont très propres et il n'y a plus des petits trous, on ne supporte plus d'avoir des salissures sur les maisons. Et donc, les gens, ils détruisent facilement les nids, ce qui est interdit. Alors, on le verra tout à l'heure avec l'interview de Jean-Pierre et on verra un exemple de protection qu'on a réalisé au Beau Sainte-Croix. On verra ça lors de l'interview avec Jean-Pierre. Quel est son statut ?
Alors, malgré toutes ces mauvaises nouvelles, entre guillemets, elle est classée LC. Alors, ça veut dire préoccupation mineure, donc dans le monde, même si elle est en déclin et observée en... Même si c'est un déclin observé en Europe. Donc, entre 1980 et 2019, la population d'hirondelles de fenêtres montre un déclin de 26% de ses effectifs nicheurs en Europe.
Espérons qu'on verra encore longtemps ces regroupements d'hirondelles nombreux à la fin de l'été. Chez moi, au Val-David, elles se regroupent les hirondelles, alors qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de nid d'hirondelles au Val-David, mais quand les hirondelles rustiques commencent à se regrouper pour partir en Afrique, et ben les hirondelles de fenêtre viennent aussi. Et j'ai des regroupements, heureusement, encore assez nombreux, d'hirondelles de fenêtre et d'hirondelles rustiques qui viennent tourner, se fixer sur les, se poser sur les fils, et c'est un spectacle magnifique. Et voilà, elles se posent sur les fils électriques un petit peu comme des notes de musique sur une portée. Eh bien justement, pause musicale.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff quoi.
c'était Pink Floyd, Grantchester Meadow.
Et on est toujours sur Radio Biodive avec Principe Actif. Et ce mois-ci, l'interview est un petit peu différée. On a été interviewé notre ami Jean-Pierre qui suit une colonie d'hirondelles de fenêtres au Beau-Sainte-Croix. Bon, bah aujourd'hui, on est avec Philippe. Je suis avec Philippe et puis on vient interviewer Jean-Pierre qui est chez lui dans son fief au Beau-Sainte-Croix. Salut Jean-Pierre.
Bonjour à tous.
Bonjour. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui du coup ?
Bah, on va parler des hirondelles de fenêtres, c'est-à-dire des oiseaux qui viennent régulièrement tous les ans coloniser notre village là, depuis déjà pas mal d'années. En fait, on s'en est inquiété au début, on les voyait assez régulièrement, mais bon, on ne faisait pas trop attention. Et puis, quand il y a eu les projets de travaux de rénovation de l'école, de la partie qui logeait la directrice de l'école, on s'est dit, il y a peut-être un problème parce que les fenêtres vont être changées et il va falloir qu'on enlève les nids ou qu'on les déplace. Et donc c'est à ce moment-là qu'on s'est inquiété et qu'on a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et avec Naturellement Roy, on a créé un dossier qu'on a présenté à la DREAL pour faire cette opération.
Il faut bien préciser qu'on n'a pas le droit de détruire les nids de ces hirondelles.
Absolument.
De toutes les hirondelles.
Oui, c'est ça, exactement.
Espèce protégée, donc espèce interdiction protégée. De détruire les hirondelles, mais de détruire aussi les nids, même si c'est en hiver et qu'elles ne sont plus là.
C'est ça, exactement. Donc on a décidé de poser des nids artificiels.
Eh ben on va se rapprocher.
Et ben voilà.
Bon, du coup on connaît un peu le dossier parce qu'on a accompagné la mairie, mais ce qui se passe c'est que des fois il y a des travaux qui sont prévus, qui sont obligatoires. Là, rénover les fenêtres par exemple pour gagner en déperdition de chaleur et en confort, etc. C'est des travaux qui sont indispensables. Mais il y a quand même une petite procédure à faire quand on veut faire des travaux et que ça impacte des nids d'hirondelles.
Ah oui, ça les impacte parce que en fait les hirondelles de fenêtres nichent à l'extérieur des bâtiments. Et notamment dans les encadrements de fenêtres. Et dès qu'on va toucher à la fenêtre, dès qu'on va vouloir la changer, ben on va être obligé de casser le nid. Et c'est là le problème, quoi. Du coup, on a protégé les encadrements de fenêtres pour empêcher les hirondelles de s'installer. Et on a compensé en mettant d'autres nids artificiels ailleurs. Pas très loin, pour ne pas déstabiliser la colonie, bien sûr.
Alors on peut dire que ouais, c'est, du coup les hirondelles elles aiment bien vivre, tu parles de colonies, donc elles aiment bien vivre ensemble en fait avec plusieurs nids.
Oui, alors il y a aussi un truc qu'il faut dire, c'est que tout ça est contrôlé par un organisme officiel.
Ouais, on peut pas, alors quand on veut faire des travaux que ça impacte des nids d'hirondelles, effectivement il faut faire une procédure auprès de la DREAL, donc c'est la Direction Régionale de l'Environnement et de l'aménagement et du logement.
Et toi, Alex, tu fais une demande officielle.
Ouais, du coup, on a accompagné la commune, donc on a fait une demande, donc il y a une procédure à respecter. Déjà, il y a un timing où il faut intervenir. Donc évidemment, on ne va pas faire les travaux et détruire les nids d'hirondelles au moment où les hirondelles sont là, parce que sinon, on détruit la nichée et on détruit les jeunes ou les œufs. Donc c'est vraiment...
Donc travaux en hiver.
Travaux en hiver. Alors, nous, ce qu'on a proposé avec Jean-Pierre, l'idée c'était de détruire les nids en hiver qui allaient être impactés par les travaux. On ne savait pas trop la date où allaient être faits les travaux. Et du coup de proposer des nids de substitution au moment de travaux. Alors après on a quand même dit à l'entreprise qu'il fallait faire les travaux assez rapidement et je crois qu'ils ont fait pendant l'hiver. Mais après on peut aussi anticiper si les travaux par exemple doivent être faits l'été, on peut anticiper l'hiver de détruire les nids, proposer des nids artificiels.
C'est ça, oui, tout à fait. Exactement.
Il y a tout un protocole à suivre. Si c'est à moins de 100 mètres, si les nids artificiels sont posés à moins de 100 mètres des nids originels, on peut mettre que un nid détruit, un nid artificiel. Si c'est à plus de 100 mètres, il faut mettre deux nids artificiels pour un nid détruit. Il faut doubler la mesure compensatoire. Et après, il y a un suivi qui doit être fait pendant 3 ans pour voir si la mesure compensatoire est efficace.
Là, ça a bien marché, puisque en fait, depuis ces 3 ans, c'était 2021 exactement qu'on a installé ça. Donc ça fait plus de 3 ans d'ailleurs. Et donc du coup, ça a maintenu la colonie. Ça s'est bien passé puisque maintenant, la colonie est toujours là. Et elle vient tous les ans.
Et je pense qu'on peut facilement dire que si on n'avait pas mis ces nids de compensation et que les nids avaient été détruits, ça aurait pu fortement impacter la colonie.
On aurait pu perdre la colonie carrément, c'est-à-dire que en dessous d'un certain seuil d'individus, les oiseaux ne viennent plus, quoi, parce que ce sont vraiment des oiseaux coloniaux, donc ils ont besoin d'être ensemble. Donc si vraiment les conditions ne sont pas réunies pour les accueillir, ils abandonnent le territoire, quoi. C'est ça le problème.
Donc, et puis c'est quand même pas très compliqué à mettre en place. Là, tu t'expliquais tout à l'heure qu'on avait fait le choix de pas laisser la possibilité aux hirondelles de se réinstaller sur les fenêtres pour pouvoir avoir une cohabitation. Mais c'est vrai que même si chez vous vous avez des hirondelles, vous avez des difficultés de cohabitation, soit aux salissures, soit parce que vous pouvez pas fermer vos volets ou ouvrir vos fenêtres, faut savoir quand même que les hirondelles de fenêtre, si on met un nid artificiel au-dessus de la fenêtre, juste dans le même axe mais au-dessus de la fenêtre, elles ont quand même tendance à bien accepter les nids d'hirondelles. Nous, à l'association, on a accompagné plusieurs communes comme ça qui avaient des soucis de cohabitation, et on a 2 sur 3 où ça a très bien marché, une où c'est un peu plus compliqué, mais généralement elles arrivent quand même à bien accepter, quoi.
Oui, là on a l'exemple, les nids artificiels qui ont été posés, on voit les murs sont propres, parce que ces nids sont bien fichus, dans la mesure où l'ouverture du nid se situe vers l'extérieur, vers la cour. Donc du coup, il n'y a pas de salissure le long du mur, et ça on le voit tout de suite, ça fait plusieurs années que ça a été posé, et là le mur est impeccable.
Et là, en plus, on a vraiment fait on a créé une structure qui est, parce qu'à la base, le mur est pas forcément favorable à l'installation de nids d'hirondelles parce qu'il n'y a pas d'avancée de toit de ce côté-là.
Oui.
Mais on a créé une structure qui imite une avancée de toit.
Oui.
Et finalement, elles ont quand même accepté assez facilement ce nouvel endroit qui n'était pas forcément adéquat à la base, quoi.
Oui, tout à fait. Et de l'autre côté aussi, alors là, par contre, c'est sur le bord des fenêtres. C'est bien sur le bord des fenêtres. Enfin, près du bord des fenêtres. Et là, on voit pareil. Ce sont des nids qui ont été ajoutés récemment. Donc, celui-ci a été fait l'année dernière. Et puis l'autre aussi, également. Et donc, ils sont pas loin des bords des fenêtres. On voit, c'est propre. C'est impeccable. Enfin, faut dire qu'on a fait le nettoyage avec Camille il n'y a pas longtemps. Mais... Puisque tous les ans, en fait, on fait un nettoyage des nids pour enlever les oiseaux morts, les œufs qui sont restés, les parasites, etc. Donc, à chaque fois, il y a un stagiaire, naturellement, Roy, qui vient pour m'aider.
C'est le bisutasse des stagiaires.
Voilà, c'est ça, exactement. Et ils sont contents, parce que je crois que Camille était très intéressée par ça. Ça lui a plu, je crois. Elle a bien vu ce qui se passait.
Et puis, l'avantage aussi, du coup, c'est, tu précises là, c'est que les nids sont amovibles, en fait.
Alors, les nids sont amovibles, oui, tout à fait. On peut les démonter très facilement et puis les remonter aussitôt. Donc, c'est ça l'avantage des nids artificiels.
Bah, après, on peut rajouter qu'on n'est pas peu fiers parce que finalement, alors on était à moins de 100 mètres parce qu'on a proposé des nids de compensation à même pas 30 mètres des nids détruits. Et on a quand même proposé à la commune qui a accepté de doubler la mesure compensatoire, même si on était à moins de 100 mètres.
C'est ça.
Pour un nid détruit, on a mis 2 nids artificiels. Et au bout de 3 ans, on en est où là, Jean-Pierre ?
Faut dire que effectivement, la mairie nous a bien aidés quand même. Ils étaient très favorables à l'installation de ces nids. Donc ils ont bien compris l'utilité et puis la nécessité de sauvegarder cette espèce. Et donc du coup, on a posé donc 7 doubles nids ici sur la partie est de la mairie. Et on en a reposé 2 autres récemment sur la partie nord. Donc ça nous fait 9 nids doubles. Ce sont des nids doubles, donc ça fait 18 couples potentiels pour la mairie, qui sont sur la mairie. Et puis du côté de l'école, on le verra tout à l'heure, il y a 8 nids, donc 4 doubles qui ont été posés également. Donc ces nids ont été colonisés assez rapidement, bien que ça a mis un certain temps. C'est-à-dire qu'en fait, on les a posés au mois de mars 2021 et puis ils ont été colonisés qu'à partir de juin. Donc les hirondelles ont quand même une certaine réticence à s'installer au départ. Ils ont pris leur temps, ils ont essayé de voir ce que c'était que ces nouveaux trucs. Et finalement, bah, ça s'est bien passé. Et puis, bah, pratiquement, ils sont utilisés, pas à 100%, mais pas loin, tous les ans. Donc,
ouais, donc on a presque doublé la colonie en 3 ans, finalement.
Oui, on a une trentaine de couples maintenant qui se sont installés. Alors, c'est vrai qu'on en avait moins au départ. Hein. Je pense que aux alentours de 2020, on en avait pratiquement la moitié, oui. Et là, ils sont bien installés. Et puis, du côté de l'école également, côté mairie et côté école. Donc, je pense qu'il y a eu une synergie qui s'est faite entre les deux, qui était bien et qui a maintenu la colonie stable. Voilà, c'est ça.
Bon, ben, merci Jean-Pierre. Et puis, n'oubliez pas que les hirondelles sont intégralement protégées et que donc détruire des nids, même en hiver, c'est interdit. Et n'hésitez pas, si vous constatez qu'il y a des petits problèmes de cohabitation entre les hirondelles et que vous constatez des destructions, n'hésitez pas à nous contacter, nous, notre association Naturel Morilly, ou même l'OFB, l'Office français pour la biodiversité.
Parfait. Et ben, je pense que c'est le moment de passer aux sorties du mois.
Ça se passe près de chez vous !
Alors, dans le cadre du programme Découvrez la nature dans l'heure, le samedi 2 mai, vous pouvez partir à la découverte de la faune et de la flore de Courseulles-sur-Seine à travers une balade en chansons et en poèmes. Merci. La vannerie, ça vous dit ? Le dimanche 10 mai à Pont-Audemer, apprenez à fabriquer une boîte en roseau et en saule, un moyen d'apprendre de se détendre et de se reconnecter à la nature. Le mercredi 20 mai à Pose, vous serez accompagné d'un ornithologue pour découvrir la réserve ornithologique afin de devenir incollable sur les oiseaux normands. Vous pouvez retrouver toutes les animations sur le site internet lanaturedansl'heure.fr. Et voilà un événement à ne pas manquer au château de Trangis à Évreux. Il y a le Salon des Plantes. Ce sera le samedi 9 et le dimanche 10 mai. Entre horticulteurs, artisans, ateliers et petites gourmandises, vous trouverez forcément le bonheur des petits et des grands. Et cette année, exceptionnellement, le château, qui est nouvellement restauré, vous ouvrira ses portes durant les 2 jours du salon pour accueillir 2 expositions différentes. Le jeudi 21 mai à 18h30, à la médiathèque d'Évreux, vous pouvez participer à la formation de la LPO sur les petits oiseaux des zones humides. Allez, je fais aussi un petit peu de pub pour nous. Le mercredi 28 mai à 20h30, à la Maison des Solidarités de Gravigny, venez découvrir les rapaces diurnes. Ce sera l'occasion de découvrir ces petites merveilles de l'évolution et même, pourquoi pas, intégrer le réseau de bénévoles de l'asso. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les sorties et infos sur le site de l'émission. Et si vous souhaitez faire la promo de vos sorties nature, vous pouvez nous contacter. On vous demandera juste de faire un petit enregistrement que l'on diffusera à la prochaine émission.
Et j'en profite pour dire qu'au Salon des Plantes, on sera présent. Donc si vous êtes tombé amoureux de nos douces voix et que vous voulez nous voir en vrai, n'hésitez pas à passer au Salon des Plantes. On aura un super stand avec plein de jeux.
Au côté biodiversité.
Et maintenant, c'est les conseils de lecture.
Le livre que je vous propose aujourd'hui s'appelle « Le poids du papillon » d'Éric de Luca. Comme en ce moment, on n'a pas trop le temps de lire et qu'on passe plus de temps dans la nature, hein, avec ces belles journées, j'ai plutôt choisi un livre, un petit livre d'une 60aine de pages, mais qui est grand par la densité de son propos. Il évoque les vies parallèles d'un vieux chamois, roi de Saharde, mais qui voit sa suprématie contestée par sa descendance, et celle d'un vieux braconnier solitaire qui cherche depuis longtemps à l'abattre pour son trophée. Le jour où le chamois est devenu roi, un papillon blanc s'est posé sur sa corne gauche, ensanglanté par le combat avec un rival. On rencontrera par la suite ce papillon à plusieurs reprises durant le récit. Ces deux protagonistes vivent seuls, l'un à l'écart de son groupe, l'autre dans une cabane en pleine montagne. Ce sont deux forces de la nature qui s'opposent, mais qui finiront par se rencontrer lors d'une ultime confrontation. Chacun observe l'autre et use de diverses ruses. L'isolement du chamois n'est interrompu que par sa visite aux femelles de son groupe. La solitude de l'homme est, elle, interrompue par sa descente au café du village, où il ne communique qu'avec son harmonica. Néanmoins, il y rencontre une journaliste qui veut l'accompagner en montagne. Suit alors pour lui une réflexion, tout en suggestion et subtilité, sur sa vie d'homme. Un geste esquissé aurait-il pu changer son destin ? Mais il fallait qu'il reparte en chasse. Et finalement, c'est le petit papillon blanc qui aura le dernier mot. Ce court récit poétique nous invite donc à de nombreuses réflexions au fur et à mesure de sa lecture. La narration par ellipse laisse notre esprit vagabonder de pensée en pensée sur le sens de la vie, la force du destin, l'acceptation d'une fin inéluctable, sur le regard que chacun porte sur la nature, et peut-être aussi sur un sentiment de vanité. Transparaît donc aussi, au travers de ce livre, un véritable hymne à la nature et du rapport que l'homme entretient avec elle. Cet amour de la nature est confirmé par la courte histoire qui clôt le livre, intitulée « Visite à un arbre ».